this is Mika from Timber Tambor, and you're listening to CKUT 90.3 in Montreal. Awesome. Very cool.
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de César. Comment vas-tu ce matin? Oui, il faudrait que tu prennes le micro. Hein? Oups, excusez pour le bruit. Le micro était enfoui dans... avec les croquettes du
pire. Réveillez-vous, c'est lundi matin. Bonjour, bonjour,
ça prend le micro, effectivement. Ça va bien?
Ah oh, oui, ça va très
en
bien,
grande
merci.
Forme. Marc-André,
Je pète le feu. Quelle entrée fracassante. Le studio, les vitres.
Un beau bruit de micro.
Qui est popcorn.
qui était caché. Hey, les gars, c'est lundi, c'est le printemps, ou presque.
Ouais,
en fait, non, officiellement, c'est le printemps.
Ouais, on est passé le printemps.
Il y a des journées, ça paraît, puis il y a d'autres journées, ça paraît pas.
Oui, exactement. Mais dans nos cœurs, c'est toujours le printemps.
Exact.
Et on vient d'écouter une pièce musicale qui était assez printanière.
Ouais, c'est DJ Shadow, Scale It Back featuring Little Dragon, sorti en 2011. C'est le quatrième album de DJ Shadow. Il venait de sortir son album après 5 ans, qui avait sorti The Outsider, qui est un hybride entre hip-hop du Bay Area. Si vous connaissez ça, c'est très spécifique, E-40 et tout ça. Puis il y a un côté expérimental. Fait que dans cet album, The Less You Know It, The Better. C'est plus relax, c'est plus à l'aise, c'est plus souple. Quand même des samples qu'il a expérimenté. Honnêtement, je le considère un de ses bons albums post Introducing Private Press, qui était très sample based. Ouais. C'était vraiment l'album, je dirais, un peu pop. Sa version de pop. Puis éventuellement, il a sorti d'autres albums, un peu plus électro, un peu plus que hip hop. Comme Our Pathetic Age, où c'est une de ses gros hits dernièrement qui est sorti dans les commerciales puis dans les films, que c'est avec Run the Jewels, la track me passe à travers la tête. Mais quand même, ça fait plus de 30 ans qu'il a une carrière, puis quand même, il a fait ses choses. Ça fait
ben
que, hats
clair.
Off to him, cheers à Monsieur
DJ Shadow, sort de l'ombre.
Josh Davis. Ouais.
DJ de Londres.
Son vrai nom, c'est?
Josh Davis.
Ah, OK. C'est bon.
Fait que, ouais. Puis Little Dragon, ben c'est un groupe suédois rock-pop. Aussi, ça fait quand même 20-25 ans qu'ils existent, là. Fait que, quand même, un beau catalogue à découvrir. Fait que c'est un beau mariage des deux artistes ensemble. Quand même fun.
Cool. Très, très belle découverte. Aujourd'hui, au programme, Marc-André, à ton tour de prendre le micro qui est caché dans le fond de ton sac à dos.
Oui, je le sens à l'instant même. Je parle dans le micro pour une fois.
On t'entend bien, merci. Yeah. De quoi on parle aujourd'hui, Marc-André?
Ben, comme d'habitude, on parle de musique. César nous a introduit de la belle musique. On va voir des beaux films et des belles bandes dessinées et de la littérature.
Ah ouais, donc, toi?
Oui. Mais je ne sais jamais par quoi commencer.
On commence par quoi?
Commence avec le film.
Commence avec le film, okay.
Une petite vue?
OK, une petite vue. Un film de Justin Lerner, or Justin Lerner. Ça s'appelle Cadejo Blanco.
Cadejo Blanco.
Est-ce que vous savez c'est quoi un cadejo?
Non.
Moi, je savais c'était quoi.
C'est pas une chaîne ou un... Non, un cadenas, c'est pas
une
ça?
Une chaîne, un cadenas?
Non, je ne sais pas c'est quoi, honnêtement.
Cadena Blanco.
Non, c'est ça parle pas.
Moi, je pensais au début, tu sais, c'était un nouveau mot. Cadejo, je pensais que c'était, je sais pas pourquoi, je le lisais, mais je pensais que c'était Conejo.
Ah.
Puis Conejo, c'est un lapin. Fait que je sors un lapin de mon chapeau.
OK.
Je parle dans le micro.
Tu pensais que c'était un film de magicien?
De magicien.
Latino.
Mais non.
Ça t'a pris ton attention que t'as vu un lapin blanc...
Non, un lapin blanc, c'était Bugs Bunny, mais c'était pas lui. Écoutez bien ça, un cadejo, je vais juste vous mettre en situation, c'est un animal, on va dire, mythique, totémique, dans la culture sud-américaine. Et c'est, si tu vois le fameux, je vais le prononcer comme il faut, cadejo blanco, ou el cadejo negro, tu as le blanc et le noir. Le blanc, c'est comme une espèce de chien et loup.
Okay.
Que si tu le vois dans ta forêt, si tu le vois sur ton passage, que tu sois n'importe où, en ville, dans un petit village ou dans la forêt, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est de bon augure.
Okay.
Par contre,
oh.
Si tu vois le black dog, si tu vois le cadejo negro, qu'est-ce que tu penses que ça fait?
Ça fait que, 7 ans de malheur.
À peu près, c'est à peu près ça.
Oh.
Fait que c'est ça.
C'est comme un genre de curse là, qui va courir après toi.
Ouais, mais je sais pas toute la mythologie de ça. Là. Je venais d'apprendre ça. Puis je voyais pas, je comprenais pas pourquoi dans le film il y avait un chien blanc qui était apparu. Puis je savais, s'il apparaît 5 secondes, puis là t'es comme OK, c'est un chien dans un film. Mais c'est ça la signification.
Okay.
Fait que là il y a des chiens, vous allez voir. C'est une histoire qui se passe à Guatemala City, sur Guatemala. Et c'est rare qu'on a des films qui se passent centrale, en Amérique centrale.
C'est vrai.
Ça reste des thématiques que j'aime, c'est-à-dire des films comme Sin Nombre, qu'on a peut-être pas déjà parlé, mais on l'a déjà vu. Maria Full of Grace, Miss Bala, tu sais, des films un peu de revenge movie.
Okay.
C'est un film social sur les problèmes que le Guatemala a, comme plusieurs pays en Amérique latine et centrale ont, gangrénés par les mafias locales ou les espèces de cartels.
Corruption aussi,
hein. Les mordidas, tu sais, je te donne 20$, t'as pas vu que j'ai pas fait mon stop, tu sais, genre d'affaires-là.
Mm-hmm.
Et là, il y a deux sœurs qui... Il y a Sarita, puis il y a Bea, qui sont chums. Même si c'est des sœurs, tu sais, je veux dire, ils s'entendent bien. Mais ils s'en vont dans un club un soir faire la fête et tout ça. Et il y a une chicane qui pogne entre les deux sœurs. Et il y a une des deux sœurs qui dit « Je vais rester. » Puis mon chum est là, puis il va me ramener. Puis il dit « Ouais, mais vous êtes en rupture. Laisse-moi y parler, puis tout. » Puis elle dit « OK, c'est à une des sœurs, la sœur qui sort avec le gars, elle dit « OK, je reste au bar, mon ex. » C'est pas clair s'ils sont encore ensemble ou pas, mais elle dit il va me ramener, c'est correct. » Fait que la petite sœur, elle s'en retourne à la maison. Et il était pas supposé de sortir. Il habite avec leur grand-mère. Et là, le lendemain, elle s'en va voir dans la chambre de sa sœur et... le lit n'est pas défait et tout ça, sa sœur n'est jamais rentrée.
Oh.
Et c'est là que le film commence. Et là, c'est une quête à la fois initiatique, une quête aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Là, elle questionne du monde, elle suit l'ex en question pour savoir s'il n'y a pas de quoi en rapport avec. Parce que lui, il se tient dans les bars. Puis comme je dis dans les bars, ben, on sait qu'il y a du bon et du moins bon monde. Et c'est là que l'histoire, elle commence. Mm. Et là, cette fille-là, Sarita, sa devise, c'est qu'elle veut infiltrer la gang que le chum à sa sœur est dedans. Mais eux, ils la connaissent pas. Fait qu'elle elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, au risque de sa vie. Tuer. Puis tout ça. Fait que c'est super intéressant. De la manière que je le décris, je veux pas trop... C'est bien dur de pas faire un spoiler là-dessus, mais elle fait ses preuves assez vite dans la gang parce qu'il demande de faut qu'elle fasse ses preuves. Puis, tu sais, pour entrer dans la gang là-bas...
c'est un pour un.
c'est assez violent, tu sais. Fait que c'est un très bon film. Le directeur, je trouvais ça spécial que c'était un... Il est d'origine américaine. Mais il s'est beaucoup impliqué au Guatemala. C'est comme sa deuxième patrie d'adoption. Il a fait des films avec des courts-métrages avec des gens dans des quartiers plus défavorisés, populaires. Et c'est là qu'il a rencontré, à force de tourner, faire des ateliers de cinéma, fait qu'il est très impliqué socialement. Il s'est basé sur... c'est une fiction, mais il s'est basé sur du réel. Et il a pris les meilleurs comédiens qu'il a rencontrés, des non-professionnels, à jouer dans son film, qui est un long-métrage,
okay.
Qui est ce film-là.
Ah, c'est intéressant.
Et cette actrice-là, elle a gagné par la suite des prix. Elle s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Karen Martinez, qui est la star du film,
okay.
Qui est la grande sœur là-dedans. Fait que c'est un film au Québec qui est sorti en 2021. C'est 13 ans et plus à cause de la violence. La violence est montrée à quelques reprises, mais c'est la tension de « Elle va-tu se faire découvrir? » Elle fait tout le temps des petites gaffes qui feraient en sorte qu'elle pourrait être reconnue pour qu'est-ce qu'elle est.
Pour être démasquée, oui.
Pour être démasquée, exactement.
Un crime thriller, là.
Hein?
Un crime thriller.
Ou un crime thriller. Puis la pochette est de toute beauté. C'est elle qui se revire et dans la forêt et sur une route. Puis elle a le visage elle a du sang, là, malheureusement, sur le visage parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Fait que je vous en dirai pas plus, mais très bon film. Justin Lerner de Cadejo Blanco. Ça a même gagné des prix. Je sais pas si tu le vois. César, là.
C'est plus où est-ce qu'ils l'ont montré. Ils l'ont joué au TIFF, au Toronto International Film Festival, au FI-CG. Ça a l'air d'un film... Film Festival au Guatemala, possiblement. Puis Tallinn, Oh, c'est quoi? À l'Estonie?
Ouais, c'est en Europe de
Black Knights Film Festival. Fait que ça allait loin.
Ça allait loin, ouais. Un petit film tourné. Qui est allé loin.
Tallinn, c'est pas Finlande? Non, c'est l'Estonie, je pense. Le Tallinn. Mm. Boy, fait que ça fait son round. Mais non, ça va être intéressant.
Pour un film, on va dire, je pense, indépendant. Là, je pense, c'est pas une, yeah, une méga production, mais c'est sa corde de raide, c'est sa coche. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ces autres films. Puis, c'est ça, il y a le côté qu'on aime là, d'enquête, de revanche, surtout. Elle veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur. Puis, il y a des très beaux paysages. Il y a des affaires qu'on ne voit pas du Guatemala.
Hey, je vois qu'en arrêt, dans la pochette de DVD, il y a un bonus short film qui s'appelle Tropico.
J'ai pas le cap de le voir.
Par Pedro Murcia. Ça a été shot en Puerto Varios, que c'est où que ma mère vient.
Oh, shout out.
Fait que c'est très rare spécifiquement. Puis Puerto Varios, c'est vraiment à 5 heures de la capitale côté Atlantique du Guatemala.
C'est-tu tranquille ou c'est rock'n'roll?
C'est un peu rock'n'roll. Puerto Varios, c'est un port. C'était vraiment le spot où que beaucoup de bateaux. Barcos. Beaucoup de bateaux arrivaient.
C'est un nouveau mot, c'est bien, j'aime la.
Ouais,
un
barto.
El Barto.
El Barto.
Barto Barco. Mais beaucoup de bateaux, ouais. Beaucoup de l'Europe qui descendaient vers Puerto Varios, puis ils faisaient leur spot. Puis comme ma mère disait, c'est beaucoup de monde qui arrivait, puis ils voulaient avoir du fun, passer une soirée, puis ils partaient quelque part.
Ah, ok, ouais.
Fait que, mais en même temps, Puerto Varios, c'est-à-dire le port Barrios.
Du quartier, le port.
Ouais, c'est comme le port des quartiers, mais Barrios.
Barrio populaire.
Exact. Fait que c'est un coin comme pas trop touristique. Je suis allé il y a 4 ans, fait qu'il y a des petits spots qui ont quand même développé, malheureusement, avant la pandémie. Fait que je sais pas comment ça survit après ça. Fait que même se rendre à Puerto Varios, c'est vraiment. C'est pas comme, tu sais, la carretera, ça devient des petites routes, puis à un moment donné, ça devient un one-way, both sides.
Okay.
Fait que tous les camions qui doivent rentrer, amener genre leurs produits, là, c'est la même route.
Okay.
Fait que si un camion que ça arrive souvent, qui flippe, shout-out à mes les cousins de Puerto Varios,
yeah,
ils comprennent pas le français, no way, anyway. Mais quand un camion flippe, une remorque, là,
c'est fini.
J'ai le mari de mon cousin qui il montrait des vidéos qui étaient coincées pendant des heures, puis on parle de 8 heures, 10 heures, qu'il faut que quelqu'un arrive avec une grue puis flippe la remorque pour qu'il puisse rouler. Fait que ça, c'est la réalité de retourner à cette route pour aller à Puerto Varios. Je me demande pourquoi ils n'ont pas agrandi la route, mais c'est ça, c'est vraiment un petit chemin pour te rendre là-bas, puis t'as la ville de Puerto Varios, que c'est très tranquille. T'es pas loin de Kingston, où il y a beaucoup de Caribéens. C'est pour ça que ce bord-là, c'est très caribéen.
Okay.
Si tu descends ça, tu sais, côté Honduras, Nicaragua, où est-ce que la culture Garifuna.
Ben oui.
Anyway, je suis en train de dévier un peu le film. Mais Puerto Varios, c'est vraiment le mélange afro-Garifuna. C'est très différent que quand on dit « Ah, tu viens de la ville de Guatemala », c'est très guatémaltèque. Mais Puerto Varios, c'est un gros mélange. Fait que, shout-out Puerto Varios.
Ben, merci pour cette introduction au Guatemala. Là, c'est question basic. C'est-tu Pacifique ou Atlantique?
Atlantique.
Atlantique, OK.
Ouais.
Okay.
Atlantique. T'sais, Guatemala, il y a les deux bords. Puis je ne sais pas quel autre pays en Amérique centrale, mais il y en a que c'est juste comme ça. Je pense que c'est juste Pacifique.
Ouais.
J'ai un blanc de mémoire qui est quoi pour Nicaragua puis Honduras, mais Guatemala,
vous autres, c'est les deux, ouais, c'est
Guatemala,
ça.
C'est le plus gros de toute l'Amérique centrale, fait qu'il y a les deux bords, puis là, t'as Panama, qui est genre, t'as le canal, tu sais, t'as les deux en fin fond, ou Costa Rica, je suis pas certain, mais ouais, fait que, en tout cas, c'est une déviation, genre, que j'ai juste vu derrière la pochette.
Non, mais c'est parfait, parce que tu devrais l'écouter, ce film-là, justement.
Ouais, ça m'intrigue.
Il parle des barrios populaires, puis il y a une petite scène dans justement à côté des containers où est-ce qu'il se passe des affaires. Fait que, regardez ça, c'est vraiment bon. Puis je vais faire un callback. Il y a quelques semaines, on a eu le réalisateur d'un film qui parle de la réalité des Guatémaltèques.
C'est vrai.
Au Québec, dans les champs agricoles. Puis c'était le film Richelieu. Mmh. Fait que tout est dans tout. Puis je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de bons sujets qui n'ont pas été exploités à faire ce genre de film-là. Fait que ça, c'est ben, tu sais, je te le laisse en attendant. On va rester dans la même veine. J'ai un petit côté gangster ce matin. si je vous dis Juan Pablo Escobar.
Hey boy, oh, c'est un grand loup.
C'est un grand loup, hein, c'est un grand loup.
Le plus grand loup de la Colombie.
C'est un grand loup, il a les cheveux gris.
Il y avait une belle bedaine, je trouve, dans Narcos.
Oui, c'est vrai.
Elle était toute molle. Une belle bedaine molle.
C'était-tu un oreiller? Qu'est-ce que
c'était? C'était sûrement un oreiller.
Une prothèse.
À chaque fois qu'il était assis, je trouvais que sa bedaine était trop molle. Okay. C'était pas crédible. Ça faisait bien rien.
Mais Wagner Moura a fait une bonne job, on va dire.
Ouais. C'était un Brésilien.
Puis ouais, mais c'est ça.
Il s'est quand même personnifié en un trafiquant de drogue colombien. Peut-être c'était son pare-balles.
Non, c'était vraiment un props de fausse bedaine qui n'était pas tellement bien. En tout cas, je ne sais pas, là, mais bref. C'était quand même très divertissant. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire sur Pablo Escobar?
Ben ça s'appelle, c'est une bande dessinée que je tiens entre les mains, je tiens à préciser. Ça s'appelle Escobar, une éducation criminelle. C'est paru sur Soleil, une bande dessinée. Je vais vous laisser lire. Vous êtes des experts à ne pas vous enfarger d'un mot et vous avez vos lunettes.
Ça a l'air trop cute.
Ouais. Mais c'est écoutez bien ça. C'est écrit par Juan Pablo Escobar, Pablo Martín Farina et Alberto Madrigal. Et là, je vois à qui le...
César, vas-y.
Bon, je m'appelle Juan Pablo Escobar et mon père Pablo... fut à l'origine du plus vaste empire de la drogue du siècle dernier qui lui rapportait alors 70 millions de dollars chaque semaine. Oh boy. J'ai toujours été entouré de luxe et d'extravagance. J'ai grandi dans le zoo privé de mon père et à 10 ans, j'étais déjà propriétaire de 10 motos, d'une voiture et d'un appartement. Je n'ai pas eu d'enfance, j'ai mûri d'un coup et je ne jouais pas avec des camarades de mon âge. Mes seuls amis étaient les tueurs à gages néfastes, grotesques et violents que mon père avait placés auprès de moi pour me protéger, un peu comme des nounous. Les guerres avec les cartels rivaux les obligeaient à veiller sur moi au quotidien et au péril de leur propre vie, créant ainsi une relation intime et singulière entre nous dont je n'avais encore jamais parlé auparavant. Voici pour la première fois un fragment de mon histoire.
Parce que là, depuis les dernières années, le fils de Pablo Escobar apparaît un peu plus dans les médias. Il a écrit des mémoires. Là, il est en bande dessinée. Il y a un documentaire sur lui et peut-être une fiction qui va sortir. C'est qu'on voit comme l'envers, il montre son point de vue dans lequel lui a vécu.
Ben oui, c'est ça.
Et là, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que César disait au quatrième de couverture, c'est que les fameux tueurs de Pablo Escobar, les Sicarios, qui se promènent en moto avec une AK-47 ou un Uzi, ils vont faire la job de descendre la personne qui est visée. Mais quand ils reviennent, ils sont dans l'espèce d'hacienda, l'espèce de grand terrain où est-ce que Pablo avait fait venir des hippopotames. Il y avait des pistes de motocross. C'était l'opulence. Puis lui, il vivait... c'était un petit gars de 10 ans, 12 ans, qui vivait avec des gars qui avaient 18, 20, 25 ans. C'était tous des criminels déjà endurcis. Ils avaient déjà fait leur preuve. Et il faisait de babysitter, il faisait de nanny. Puis se promenait en moto, puis des fois, il pouvait faire n'importe quoi avec le fils de Pablo Escobar pourvu qu'il soit en sécurité.
Okay.
Mais tu confies ça à du monde un peu tout croche, ça se peut qu'il t'emmène à des endroits un peu tout croche.
C'est
clair. L'auteur,
c'est lui-même. Le vrai fils.
C'est le vrai fils. Et dessiné d'une façon, on va dire, pas réaliste, plutôt... semi-réaliste, c'est en couleur, et il s'attarde sur quatre personnes qui ont été marquantes dans sa vie, qui se rappellent. Je sais pas s'il a gardé les mêmes noms, mais il raconte toutes ses expériences par rapport à chacun, et dont un qui est vraiment un sicario qui tue pour l'ordre de son père et qui, à un moment donné, revient ensanglanté. Et là, ça laisse des marques sur le jeune garçon qui a à peine 10-12 ans.
Ouais.
Fait qu'il est entouré d'adulte tout croche. Fait que c'est un peu triste, mais on voit quand même qu'il y a une amitié. Il y a comme une espèce de camaraderie de grand frère, petit frère. C'est le fils du patron, il faut bien s'en occuper, il faut le divertir. Faut pas qu'il voit trop d'affaires, mais en même temps, pour d'autres, c'est comme non, c'est bon qu'il voit les affaires parce que c'est lui qui va prendre le business de son père plus tard. Fait que c'est assez complexe comme, comme histoire. Le dessin, il aurait pu être un peu plus réaliste parce que c'est très... c'est quand même dark, lugubre, mais c'est fait de façon... tu sais, ton fils verrait la bande dessinée qui est jeune, verrait la bande dessinée traîner, il voudrait l'aller parce que c'est un monsieur qui tient son fils dans ses bras.
Oui, c'est ça. C'est coloré aussi. C'est des couleurs vives. Là,
ouais, ouais, ouais.
Puis exactement, l'ambiance générale n'est pas du tout lugubre.
Non, non, non.
C'est plutôt... On pourrait dire, à la limite, c'est comme vraiment du point de vue de l'enfant.
Exactement.
Puis le visuel est comme rendu dans cet univers-là un peu. Là, t'sais. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, bon, César est en train de feuilleter la bande dessinée. Puis à la toute fin du livre,
il y a des photos de lui et son papa.
Des pages documentaires.
C'est impressionnant. Là. C'est ouais. La photo avec lui, avec son fils devant la Maison Blanche.
Oui.
Pablo Escobar, père, avec son fils qui a 10 ans dans les mains, ils sont photographiés devant la Maison Blanche.
Ouais.
C'est capoté.
Très cool. Très cool, mais en même temps très fascinant, surtout fascinant.
Oui, ben on est quand même fasciné par le crime et tout ça, et on sait que le fils de Pablo Escobar se dissocie de tout ce que son père a fait d'une certaine manière. Il fait comme son mea culpa. Il essaie de se. Il y a un petit côté de rédemption, on dirait, ces temps-ci. Et j'ai écouté un podcast il y a un certain temps qui parlait d'un réalisateur québécois qui a rencontré le fils de Pablo Escobar. Là, j'ai naturellement le fameux blanc du lundi matin, mais vous allez pouvoir le trouver facilement. Et c'est ça, son fils est de plus en plus visible dans les médias et tout ça, et il essaie de, comme on va dire, effacer un peu les tâches du passé. Ben, il ne peut pas changer ce que son père a fait, mais lui, il veut comme... Il veut sortir de l'ombre et dire « Oui, je suis le fils de Pablo Escobar, mais c'est pas moi qui ai fait les crimes. » Fait qu'il y a toute cette campagne, de, on va dire, de publicité pour ça.
C'est une zone grise.
Exact.
Oui, totalement. Exact.
C'est vraiment une zone grise parce qu'ils l'ont capturé puis il s'est fait tuer. Fait que...
Non, 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 c'est sûr. Là, c'est sûr. Là, puis il y a tellement une mort. C'était un bain de sang. Mais la bande dessinée est vraiment intéressante du point de vue d'un jeune enfant qui grandit dans ce milieu-là de violence.
Parlant d'Escobar, si vous avez vu le show Narcos, je suis allé voir un concert de Rodrigo Amarante.
Qui fait la musique de...
Le lundi passé, qui a fait le thème de Narcos, de la chanson Tuyo spécifiquement. Au Jésus, je l'ai vu là, c'était quoi? C'était le lundi passé.
Wow.
Ouais, lundi passé. Vraiment un bon show. Je vais donner un review, là, un 5 étoiles. Il est arrivé avec sa guitare, comparé à en 2019 ou 2018, il est venu avec un petit band. Il est juste venu avec sa guitare blanche, iconique, trademark, je sais pas comment on peut le dire.
Ouais,
puis quand même un bon show de plus d'une heure, là, vraiment beau. Puis ça me vient juste de me rappeler qu'il a joué une vieille chanson de sa jeunesse, que c'est par rapport au loup avec les trois petits cochons. Non, le loup avec le Red Riding Hood.
Oui,
chapeau. Puis il a fait une belle transition comme d'un loup à un autre loup. Et il a joué la chanson Tuyo. Fait que c'était vraiment une transition vraiment unexpected. Vraiment, vraiment nice. Fait que, c'est vraiment sa version à lui, juste sa guitare, comparée à la version tout arrangée, orchestrée comme le show, qui est vraiment belle aussi.
Ouais.
Mais vraiment, vraiment bon show. J'étais très content. Je pense que c'est un des meilleurs shows que j'ai vu. Surtout, ça me fait rappeler à la vieille musique folklorique 60-70 Amérique latine, brésilien. Vraiment cool à voir. Là.
Lui, il est colombien, juste pour être sûr.
Non, il est brésilien.
Ah, il est brésilien. Okay.
Il est brésilien, okay. Qui a fait une chanson en espagnol.
Ok. Ouais. Mais le reste de son répertoire, c'est pas en espagnol, j'imagine.
C'est portugais, deux tiers portugais, un tiers anglais. Puis il y a deux albums solo. Le deuxième qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans, ça me passe à la tête. Mais tu sais, il a fait une chanson en français, il a fait Tuyo en espagnol, puis comme je t'ai dit, le portugais et anglais. Mais c'est vraiment un throwback à ce style folklorique des temps de mes parents. Puis lui-même, quand il a fait la chanson Tuyo, comment il est venu avec le thème, il a dit qu'il s'est juste dit quel genre de musique que la mère de Pablo jouait quand il était jeune.
Oh, nice.
Fait que c'est pour ça que Tuyo sonne très boléro, très vieux, ancien, mais c'est vraiment comme un qu'est-ce que Pablo a peut-être grandi. Fait que c'est pour ça que le thème va bien avec le Narcos.
Ok. Dans le fond, c'était une commande, c'était pas une chanson qui existait avant.
Non, c'est ça.
C'était commandé pour l'émission.
Exact.
Il y a un petit côté romantique, romantique, nostalgique dans cette pièce-là.
C'est comme vraiment 40, 50, c'est très...
accrocheur aussi.
Exact, très boléro, très romantique. Puis c'est juste comme, c'est ça qu'ils ont grandi avec malgré toute la violence et la corruption.
Le clash est tellement... C'est tellement... Tu sais, ça aurait pu être une musique moderne, puis tout ça, puis ça aurait sûrement pas fonctionné.
Ouais.
Mais là, les images sont très fortes de l'introduction de la série. Et c'est une musique très, très douce. Et les images, c'est des images d'archives de qu'est-ce qui s'est passé dans le pays qui était en feu et en sang. Et le clash est d'autant plus fort. Ça l'appuie. C'est comme une contradiction. Et c'est ça qui fait que la toune, de toute façon, est tellement accrocheuse.
Non, vraiment bonne. Puis je suis devenu fan de Rodrigo Morente à cause de Narcos. C'est la première fois que j'entendais ces chansons-là. Puis là, il y avait déjà un album 4-5 ans avant qui avait sorti son premier album solo qui est magnifique, qui s'appelle Cavallo. Puis le deuxième, Drama, qui est sorti en 2021. Je ne me rappelle plus c'était quand. Mais vraiment, deux très bons albums à écouter.
Excellent. César, belle transition entre la bande dessinée de Pablo Escobar, Une éducation criminelle, et la série Narcos.
Et là, on va inviter nos auditrices et auditeurs à aller prendre un petit café colombien pendant qu'on va en pause et on vous revient après la pause.
To my lip, off like a crusader on a mission. To those and for those who love the flavor of the hip-hop that I give them with seasoning till the fullest. Never slip in time, I always act like I knew this or that. Those facts come correct when I do this. It's easy, not cheesy, but I crunch like a Cheeto. Oh no, big quick to the start, I poach in slow-mo. Silence and we're in the crowd, snooping on the download. A rugged style, easy to the lips, so I flow to the beat and I blow like the wind. My rhymes will hit you and give you many bruises to the skin and irritating rashes that you scratch like my DJ. With no fading, always staying true to the flavor. And since this is my mission, yo, what's next in order to keep the funk in check? Because the quest ain't over.
On a what? A quest for rhymes.
Seek and search, but still you can't find.
I'm on a quest.
On a what?
A quest for rhymes.
Seek and search, but still you can't find.
I enter the illegal, make a point of that like the needle. Then I start to do my snooping like Charlie Brown's beagle mutt over a strut. Then I rip things apart, determination. So let me tell it to you from the start, the funk went missing. Something's
Nous sommes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce musicale. César, peux-tu nous introduire à ces rappeurs canadiens?
Rascals, le premier album Really Living, sorti en 93. La chanson s'appelle Quest for Rhyme. Si on parle du rap canadien, Rascals est très reconnu pour avoir développé le son 90 canadien.
La torche du Nord.
Fait que un album vraiment cool début 90. Fait qu'il y a pas beaucoup d'albums qui sort de la démographie canadienne qui est vraiment démarquée, très underground. Fait qu'il faut connaître c'est qui est quoi, qu'est-ce qui a fait de quoi au Canada. Mais Really Living the Rascals est très fort. Puis ils ont marqué leur nom avec leur deuxième album. Si tu peux me rappeler, c'est quoi?
Cash Crop.
C'est que là, tout le monde commence à faire un peu plus de bruit au Canada, incluant même Chaos au début mi-90, ouais, ben fin ouais, 90, c'est... qui a sorti des singles, qui n'a pas pu avoir un album jusqu'à début 2000.
Checkmate, Choclair.
Les Swollen Members aussi. Ouais. Qui étaient...
Dream Warriors, un petit peu à Toronto aussi. Ouais. Puis le Master, Fresh, Maestro Fresh West. C'est
ça? Ouais. Le rap canadien, c'était plus fin 90 qui a commencé à faire un peu plus de bruit, ou même aux États-Unis comme les Swollen Members, qui avait des singles qui commençaient à se démarquer. Fait que
Pour moi, c'est là que le downfall du rap anglophone canadien a droppé. C'est qu'ils ont essayé de faire trop comme les Américains. Quand Rascal ont fait Global Warning ou Warming, un des deux, peu importe, checkez vos affaires. Mais le troisième album, c'est là que, OK, ils font des features. On va aller chercher d'autres noms. C'est pas ça qui donne votre flavor. Votre flavor, c'est quand vous étiez au Canada. C'est pas parce que tu viens chercher un Américain. Il vient juste faire un fill-in. Là, puis
c'est rhymes de fond de moi.
Mais c'est ça. Mais les deux premiers sont.
Mais ça sonne comment le rap? L'identité canadienne, justement, que vous faites référence?
Ben, c'est plus, dans les années 80, c'était plus régionaux, right? Fait que t'as le son new-yorkais, t'as le son californien, puis après, tu sais, plus underground, t'avais Miami, t'avais Texas, Houston, puis Atlanta, qu'il faisait beaucoup de bruit dans les débuts 90, mais 90, qu'ils n'étaient pas respectés jusqu'à la fin, avec le son de Cash Money, puis Juvenile, tout ça. Mais Canada, c'était plus... très underground, même si tu t'écoutes genre du Swollen Members, le premier album, c'est très macabre, sombre. Puis après, ils ont eu les premiers hits avec Nelly Furtado, qui sont un peu plus à la radio. Puis Chaos, qui est sorti Exit en 2002, fait que tu sais, c'était plus expérimental, fait que c'était plus un peu à la roots, on va dire. C'est vraiment le fun à écouter, mais tu sais, c'est plus t'écoutes pour le contenu, pour le côté artsy.
Chaos était musicien, fait qu'il y avait des vrais instruments. T'entendais de la vraie guitare, c'était lui qui jouait.
Ouais,
t'avais de la bass,
il jouait beaucoup la guitare,
vrai,
c'est vrai.
Un vrai beat de drum, des keys, des keyboards. c'était, tu sais, oui, il y avait du sampling. Justement, Rascal puis Maestro Fresh West, c'était des samplings vraiment old school. Vraiment, comme si on allait chercher dans les tiroirs de jazz. Puis c'était
les tiroirs des parents.
Snare, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, un snare hi-hat, puis c'était très... on va dire proto-rap, là, tu sais, Maestro Fresh West, la production du premier album.
Comment tu trouvais tes samples? Qu'est-ce que tu samplais? Est-ce que tu samplais la même chose que les gars de New York? C'était vraiment comme, il faut que... Pour faire du hip-hop, il faut que tu trouves tes propres samples, tes propres mélodies à sample. Fait que c'est pour ça que le son new-yorkais, comme il est très dirty, grimy, c'est plus agressif. T'as le Californien qui est un peu plus laid-back, où c'est le G-Funk qui est sorti, mais t'as l'alternative comme Souls of Mischief, Delta Funky Homo Sapien. The Far Side, tu sais, comme exemple. Puis t'avais Cypress Hill d'un autre côté, c'était différent, mais c'était californien. Mais Canada, c'était la même chose. C'était pas assez populaire. C'était plus, c'est à toi, c'est de la ville. Puis ça a pris du temps pour arriver où ce qu'il y en est. Puis, si tu fast-forward après Chaos, il y a pas vraiment eu d'autres rappeurs canadiens que Drake. Que Drake, quand il est arrivé en 2008-2009, il était signé à Cash Money avec... j'ai oublié le bonhomme, Birdman. Fait que, tu sais, c'était Drake, le plus gros rappeur canadien, avec toute sa popularité avec Degrassi quand il était comme acteur. Mais même Drake, comme début, t'écoutes son album, tu peux pas dire que c'est du rap canadien. C'est vraiment un rap global. Fait que c'est là où on est rendu à un point que c'était plus régional. C'était vraiment comment t'es un artiste par toi-même. Mais Drake, he happens to be un Canadien. Fait que Drake, c'est Drake, mais on sait qu'il vient du Canada, mais c'est pas un son canadien. Okay. On a perdu le côté régional dans les mi-2000 puis le fin 2000.
C'est moins authentique.
Là. Peut-être le dernier qui a su faire ça, c'est Cardinal Official avec son premier Firestarter ou Firecracker Number One. Et là, il y avait un son, Tio, il parlait tout le temps de Toronto. C'était cool, il représentait Toronto. Ouais.
Est-ce que les Rascals venaient de Toronto aussi? Ou...
c'est une bonne question.
Je suis devenu fan de Rascals à cause de toi. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Mais c'est qui que j'allais dire?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est Toronto, mais...
Vancouver, BC.
Oh, Vancouver.
OK, c'est bon.
Fait que c'était eux avant West même Coast les Swallow represent. Members. Fait que... ouais, non, mais tu sais, c'est moins régional. Mais tu sais, je me dis comment si Drake a sorti 10 ans avant, comment ça aurait sorti? Qu'est-ce que ça allait... comment ça aurait sonné? Mais en tout cas, c'est juste des théories qu'on se crée dans
le... Ouais, parce que 10 ans plus tôt, il faisait autre chose.
Ouais.
Il faisait pas de la musique, nécessairement.
il était à TV.
Il était à la télévision.
Il était acteur, ouais.
Acteur dans un drame... de secondaire.
C'était comme Pete dans Chambre en ville. Il avait 25 ans, mais il jouait un petit cul de 15 ans dans une école secondaire. Puis il fallait qu'il mette des boutons d'acné artificiels.
Drake, moi, je l'ai pas... Parce que moi, j'ai surtout connu la série originale de Grassy High.
Ouais, puis il était pas dedans.
Mais lui, était dans la deuxième ou la troisième.
Il y a comme plusieurs.
Ah, OK,
j'ai
vu
vite. Il y a les parents que Joey Jeremiah, qui ont des enfants. Ouais, professeur, il est dans Hey Man, ça c'était trop.
Ok, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai connu l'année de
Joey
et
OG.
La fille punkette là, ouais. Avec les cheveux.
Spike.
Ouais, c'est ça, exactement.
Spike, puis Snake, il y avait un groupe, ça s'appelait The Zit Remedy.
Oh boy.
Une affaire dans la main. Il y avait un groupe, White Joey.
Ouais, puis ses deux amis. Là.
Puis il y avait un coat de jeans coupé, des chemises genre hawaïennes, puis il y avait un petit chapeau d'été.
Ouais.
Puis on est au Canada, à Toronto, là. C'est deux mois l'été, là. Tu sais, trois mois. Ouais. Ouais, c'était comme...
Ça, c'était pas les années de Drake. Drake non, est arrivé
non,
plus tard.
Non, ouais.
OK, c'est ça. Hey, grosse parenthèse.
Gros U-turn sur l'autoroute ce matin.
Mais tout ça à partir de Rascals, rap de canadien rap. Des années 90 qui nous vient de BC.
Hey, mais là, au Québec, QC, Québec Cité, 514-418, 819, represent, on a un super bon documentaire, reportage. Ça s'appelle « La vraie histoire du hip-hop au Québec ». C'est fait par... là, je prends mes papiers. Il y a eu des coupeurs de journaux. Fait que pourquoi réécrire quand j'ai les dans la main? On a le rappeur Impos. De
Mozaïen.
Mozaïen, de son vrai nom Stanley Rimsky-Salgado. On a l'animateur de radio Flight. C'est Rudy Filius qu'on voit. Et le journaliste spécialisé là, en musique, Félix B. Desfossés, qui a écrit un livre sur le hip-hop au Québec, un sur le deux sur le métal, sur l'évolution du métal au Québec. Et là, lui, il avait écrit un livre, on va dire, dans les années de la pandémie, ça s'appelait « Les racines du hip-hop au Québec ». Et il a décidé de faire une série documentaire sur les racines du hip-hop au Québec.
Oui.
Et là, tu sais, ben du monde pense que le rap au Québec, ça a commencé avec Lucien Francoeur, le Rapabilly, ou RBO, ça rend rap. Mais on apprend que c'est pas ça pantoute.
Daniel Lemire.
Ah oui.
Hein? Pas Daniel Lemire. Qu'est-ce que
La Voix.
Daniel La Voix, le collapsus.
Oui, oui, oui.
C'était la chanson Le Pape du rap.
Oui. Parce que sinon, ça serait Oncle Georges qui aurait fait du rap. En bonhomme.
Daniel Lavoie. Non, mais ben, c'était plus tard.
Ouais. Mais tout ça, c'était plus tard. Mm. Puis c'est pas du rap, on s'entend. C'est du. Ouais. C'est de la.
Genre d'imitation.
C'est de la, d'un style. Ouais. Ouais. Mais c'est correct, mais c'est pas. C'est de la variété, comme on dirait en France. C'est pas du rap, c'est de la variété. Et là, les journalistes sont allés creuser là-dedans. C'est une série qui a débuté en ligne ou peut-être à Télé-Québec, mais on peut les voir en rattrapage sur Télé-Québec.
Ah, c'est vrai?
Et c'est ce que je suis en train de faire présentement. Je suis un petit peu en retard parce que ma liste de things to listen to and to see...
T'es un homme occupé, toi?
Oui, je suis un homme assez occupé. OK, ouais.
C'est bon.
Deux, trois séries en même temps. J'en parle même pas. Okay. Mais écoutez ça, les deux. C'est vos devoirs cette semaine.
L'écoute. On arrête le show puis on écoute le Marc-André.
Ouais, on s'en va l'écouter.
C'est fini.
Ouais.
Merci.
On déjeune, bacon, des toasts, puis let's go. C'est très, très bon. Et on apprend que c'est plus la communauté, on va dire, afro-caraïbienne, anglophone, qui ont vraiment commencé le rap à Montréal, à quelques exceptions près. Pour moi, le rap commençait... Là, moi, je parlais du rap au Québec en français. Pour moi, dans ma tête, peut-être qu'ils vont en parler plus tard, pour moi, c'était MRF, le mouvement rap francophone.
Ah,
quand Ice-T est venu à Montréal, il a joué au Fofon électrique, c'était MRF qui venait de la Rive-Sud qui ont joué.
Qui ont ouvert le show.
Qui ont ouvert le show.
C'est enfin, c'était cool.
C'est des années 80... C'est 90, 95 peut-être. C'est un peu flou. Moi, j'ai le démo ici, et justement, Félix B. Desfossés était pas mal impressionné quand j'ai posté la cassette que j'avais ce démo-là qui est assez rare. La toune, vous pouvez voir sur YouTube, ça s'appelle Mouvement Rap Francophone, MRF. Ça s'appelle. Attendez, parlez deux secondes.
Mouvement Rap Francophone.
Merci.
Qui nous vient de la Rive-Sud.
Cassette... Ouais, était pas loin.
Et la cassette était pas loin, c'est MRF est arrivé. Fait que c'est un démo, il y a deux tunes, t'en as une, c'est la version qui chante et t'as la version instrumentale. Et sur l'autre côté, t'as Notre Monde, la version avec les chanteurs rhymer et la version instrumentale. Un petit démo que je suis content d'avoir. Tout ça pour dire que pour moi, c'était la genèse du rap, c'était ça. Mais là, on apprend que c'était pas ni RBO, ni MRF, peut-être en français, c'est eux autres, on n'est pas rendu là, c'est plutôt des gens comme... et là, on a un... Je vais vous laisser l'écouter.
Des gens comme tu allais dire?
Comme Michael Williams. Okay. Michael Williams, ça vous dit-tu quelque chose? Avez-vous écouté le penchant anglophone de Musique Plus? Ça
oui,
s'appelait...
Much Music.
Oui, Musique Plus, Much Music, c'est à Toronto.
Au canal 35.
Exactement. Tu avais un animateur qui vient de MTL... qui a fait les premiers événements de compétition de rap, de breakdance et tout ça, au Spectrum, le défunt feu Spectrum.
Ouais, ouais, ouais.
Et lui, il a été approché par les gars de Much Music. Il a dit, on t'emmène. Il faisait déjà de la radio communautaire. Je pourrais pas, peut-être sur CKUT, peut-être sur une autre chaîne.
Ouais.
Ils sont allés le rapatrier et lui faisait les émissions urbaines à Toronto.
Ah, c'est vrai?
Et il est dans cette émission-là et il rencontre une des pionnières du rap. Elle s'appelle Blondie B. Et elle faisait partie de la première moulure du rap dans les années 80. Fait que t'as vraiment là...
Montréal, par contre.
À Montréal, okay. À Montréal. Fait que t'as le début, là, tu sais, la fin du disco, le début du rap, ouais. On l'avait. Pourquoi? Parce que ces gens-là se promenaient... Montréal puis New York, c'est pas loin.
OK. Ouais.
Fait qu'ils s'en allaient à New York, ils passaient l'été là-bas chez de la famille, des amis.
Ils
ramenaient... Exactement. Ouais. Le import-export...
Ils ramenaient quoi?
Des disques.
Des 12 pouces, des singles.
Lui a compris.
Ouais.
Oh. J'avais compris, mais je voulais être sûr que les auditeurs le disent.
Mais c'était comme ça que tu entends les histoires que, tu sais, le monde qu'ils avaient la chance d'aller à New York, spécifiquement au début de 80, puis ramener des records qui changeaient toute la game, mettons comme Montréal ou Toronto. C'est là que tu pouvais voir les ampoules s'allumer énormément. Puis, tu sais, l'histoire la plus intéressante, c'est DJ Premier, qu'il define le son de New York, mais lui, il vient de Texas.
Oh, ça n'a rien rapport.
Exact. T'sais, lui, c'est un gars du Texas, from the south à l'ouest, puis il y avait de la famille à New York. Fait qu'il faisait un va-et-vient, il ramenait des affaires, puis à un moment, il a juste bougé à New York. Fait, imagine-toi que DJ Premier, c'est le gars qui représente New York, n'est pas de, New, de York. New York. Fait que même lui, il a dit que c'était la même affaire. Ils allaient là-bas, puis t'es comme, c'est quoi ça? Puis il ramenait, puis à un moment, il est juste resté à New York, puis Gangstar, il a formé, puis il a défini le son. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment les records étaient ramenés à Montréal, qu'est-ce que ça a été créé, qu'est-ce que ça a été fait, qu'est-ce que ça a été produit. C'est quelque chose que ça m'intéresse à découvrir.
Et un des premiers organisateurs d'événements rap que vous allez voir, je vous laisse le découvrir, ça se passait sur la Rive-Sud, South Shore Represent. Et c'est dans des petites salles communautaires qu'ils louaient, puis on disait, on va faire un party.
Ouais.
C'était full pack, puis c'était le bouche-à-oreille, c'était les flyers, comme j'ai fait dernièrement.
Des petits do-it-yourself,
exactement. Des petits morceaux de papier photocopiés, dessinés. Tel événement, telle soirée, 3$, les portes ouvrent à 19h, spectacle à 20h. Puis c'est le bouche-oreille. Rappelez-vous, là, les jeunes, il n'y avait pas les internets n'existaient pas.
Okay, non.
Les Facebook n'existaient pas. C'est Instagram, les poteaux électriques,
téléphone.
C'est poteaux électriques avec du gros, du tape, puis des pins.
Puis à la main. C'était très punk.
C'est très punk. Photocopie noir et blanc. C'était point de vue graphique. C'était des fois, ça laissait à désirer. Mais c'est pas grave. C'est le contenu, c'est qu'est-ce qu'on allait voir, qu'est-ce qui allait se passer.
Est-ce que tu te souviens, donc là, le pionnier, semble-t-il, ce serait Mike Williams?
Mike Williams, c'est l'organisateur.
Okay.
C'est lui qui a ramassé, admettons,
le rassembleur. Okay.
Cardi B.
Blondie B.
Blondie B, excuse-moi, ouais, Cardi B, oui.
Elle vient pas de Montréal.
Elle vient pas de Montréal.
Non.
Non, fait que c'est ça, c'est Blondie B.
Okay. Sa sœur, en fait.
Ouais, c'est
sa grande sœur.
C'est le même nom de famille.
La famille B.
La famille B.
Bibi.
Oui, Bibi et Geneviève. Fait que tout ça pour dire que, écoutez ça, je suis en train de le visionner. Là. À l'instant même, là, quand il va y avoir une pièce de musique, moi, je vais regarder mon téléphone.
C'est bon. Fait que sur Télé-Québec, ça s'appelle comment? La télésérie? L'histoire?
C'est les racines du hip-hop au Québec.
OK. Nice.
Je bois mon café, pose-moi pas de questions. Là. Je bois. Là. Je prends une petite gorgée, un petit remontant.
Il n'y a pas de problème, Marc-André. Pas de stress. Allez voir Télé-Québec. Allez voir le documentaire, la série documentaire sur l'histoire du rap au Québec. Super intéressant. Une histoire qu'on ne connaît pas assez. C'est ça qui est vraiment fascinant. Parce que, tu sais, le reste de la musique québécoise, on en connaît en long et en large. Là.
Ouais.
Mais l'histoire du rap, puis c'est super intéressant de savoir qu'il y a des gens qu'on connaît pas vraiment, mais qui ont un impact significatif sur l'histoire sur la scène locale.
Là, je te donne A+. Parce que...
enfin!
Enfin, il y a eu sa note de passage. Non, mais c'est vraiment ça. C'est bien important. Puis il n'est pas trop tard. N'importe quelle scène, il n'est jamais trop tard. Oui, ça aurait dû être fait peut-être il y a 10 ans. Mais chapeau aux diffuseurs, chapeau aux journalistes, aux animateurs. C'est que notre génération, on a grandi avec du rap, on a grandi avec du hardcore, du punk, du métal, et tout ce qui était underground qui nous a fait triper quand on était des 90s, 90s kids. À cette heure, on est rendu là. J'ai des amis qui sont un peu dans les médias, et là, ils peuvent commencer à pousser parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à tu sais, tu peux pas mettre du Fernand Gignac à 3h de l'après-midi, là, tu perds 99% de ta clientèle. Fait qu'il faut que tu ailles chercher des affaires qui vont accrocher la clientèle qui est possible de t'écouter. Puis c'est ça qu'ils font. Ils sont encore frileux, mais ils commencent à mettre un peu. Ben, ils en mettent du rap. Ils mettent le nouveau rap. Les old school, on dirait qu'ils ont bien peur, mais c'est là que ça vient.
Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la scène de rap est totalement ailleurs, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de choix.
Ouais.
Puis on s'entend que le rap aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le rap des années 80, là, musicalement non. parlant. Là, c'est
le
comme
rap, c'est le nouveau complètement rock. C'est les rock stars maintenant, c'est très global.
Ben, c'est de la pop, là, carrément. Ouais.
C'est techniquement. Oui, c'est ça, t'as vraiment.
La le pop. Son, il est différent.
Moi, je prépare un album de rap parce que je vais avoir un voice coder. Puis j'ai un petit four track, puis j'ai des beats, puis c'est ça. Honnêtement, le talent, des fois, je regarde, là, c'est... Il y a du bon, il y a du mauvais, mais là, je m'en vais pas là-dedans.
T'aimes pas le nouveau rap, Marc-André?
Il y en a du bon,
c'est
mais...
comme tous les genres de musique.
Pas celui qui est à surface. Oui, il y en a du bon. Il y a des bonnes nouveautés, ouais. Mais c'est pas ce qu'ils nous présentent. Faut que tu scratches, faut que tu enlèves le topping, ouais. Là, puis dans le fond, il y a des pépites.
Il faut écouter qu'est-ce que les jeunes écoutent. C'est là qu'il faut avoir l'oreille.
Exactement. Ouais, c'est ça, sur TikTok. Hey, mais aussi, c'était vraiment intéressant qu'ils en ont parlé dans le Journal de Montréal de cette série-là et dans Le Devoir. Fait okay. que ça donne aussi une visibilité
ouais.
Qui n'est pas évidente non plus.
Puis, en parallèle, il n'y a peut-être pas de lien, mais il y a l'exposition à Québec.
Est-ce que tu es allé?
Je ne suis pas allé.
Tu es toujours à Québec, à Lévis, je le sais.
Je sais, j'ai eu plusieurs occasions, j'aurais pu, mais en fait, non, j'aurais pas tellement pu parce qu'avec les enfants puis la belle famille, j'ai pas le temps. J'ai des journées chargées, fait que le musée, ça rentre pas là-dedans. Je sais. Mais ça serait intéressant d'y aller, nous oui. tous, puis d'en reparler.
Pour pas te parler à travers notre chapeau.
Exactement. Ouais. En espérant qu'on on manque pas l'exposition au musée de la civilisation. Je crois que c'est là-bas ou c'est dans un autre musée?
Ou l'autre. Il y en a deux musées.
Le musée des Beaux-Arts.
Ça peut être des Beaux-Arts.
Ouais, c'est sûrement civilisation, c'est le genre d'expo qu'il y a là-dedans, sur l'histoire du rap au Québec.
Les musées, c'est de la nourriture pour ton esprit. C'est très important que tu
ailles. Ben oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc-André.
On
n'a
pas le choix.
Faut y aller.
Quand bon. faut y aller.
On hey, finit avec une toune?
Ouais, OK, on finit ça.
Ben oui, il reste un petit 4 minutes, donc on peut... Ben, 3 minutes et demie, en fait.
All right, guys.
Donc, avant de mettre la chanson...
On se dit bye-bye, on se regarde dans les yeux.
Oui, allô.
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 Salut. Goodbye.
Santé. Merci, César. Merci, Marc-André.
Bon lundi,
merci
bonne tous. Semaine, tout le monde. Car il se
You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. Now we are starting with your Made in Brazil show, your host, Daniel Shore. Today, this show is being broadcast and recorded on April 1st, 2024. April 1st, as you know, is the Fool's Day. And also, in Brazil, there is the date where people are thinking about and reflecting on the coup d'etat that happened in Brazil in 64, starting a military dictatorship that lasted for 20 years. So today we'll be talking about Brazilian news. We are going to listen to 2 hours of Brazilian music, and I hope you enjoy the show on this beautiful, nice, cloudy Monday morning in Montreal. So thanks for listening, and stay tuned for 2 hours of Brazilian music. Thanks for listening.